Bien, nous continuons avec l'évangile selon Marc. Donc, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, donc, les messages, je dirais, durant cette année, on va dire année scolaire, ça sera autour du livre l'évangile selon Marc. De temps en temps, il y aura un sujet, un message par rapport à un sujet bien particulier, mais le fil conducteur, ça sera la parole de Dieu, l'évangile, les épîtres. Mais cette année, j'ai opté plutôt pour l'évangile de Marc parce qu'il me paraît l'évangile le plus accessible, le plus simple, le plus court, ou que ça soit jeune ou moins jeune, enfant, peut comprendre facilement. Et nous avons commencé la dernière fois, parce que c'est le deuxième message par rapport à l'évangile selon Marc, et avant même de commencer à étudier ensemble, explorer le contenu de l'évangile de Marc, il me paraissait essentiel de connaître l'auteur, le contexte, etc. La dernière fois, nous avons exploré ensemble qui était Marc, et nous avons ensemble réalisé que Marc, quand il était appelé à écrire cet évangile, l'appel était la conséquence d'un travail qui s'est effectué au préalable. C'est un travail qui s'est effectué en Marc avant que le Seigneur, Dieu, l'appelle à écrire cet évangile qui nous raconte l'histoire du Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Nous avons vu que Marc, la première fois que l'évangile nous parle de Marc, on nous présente Marc comme faisant d'une famille qui accueille les disciples pour prier ensemble. Il faisait partie d'une famille où les disciples se réunissaient, ils priaient, ils louaient le Seigneur. La première chose pour que Dieu nous appelle, est-ce que nous faisons de notre maison, ou plutôt notre propre, c'est-à-dire notre corps, est-ce que nous sommes dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, avant même de dire quoi que ce soit, Dieu nous appelle. Première chose. Après, on a vu qu'à travers tout son parcours, qui n'est pas seulement jalonné de succès, il y a eu quand même plusieurs fois, il y a eu des chutes, etc. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il a maintenu le cap au point que Pierre le considère comme son fils. Donc il y a eu tout un cheminement. Et Marc est un témoignage pour nous, que c'est le chemin du chrétien. Et nous avons parlé aujourd'hui, ce matin, avec Dorothea qui nous a partagé ce rêve. Dans cette course, est-ce qu'on s'arrête pour adorer louer le Seigneur? Ça, on doit se poser cette question, elle est indispensable. Je dirais, quand on arrive le dimanche avant de venir, samedi soir, ou dimanche matin avant de prendre sa voiture ou son vélo, que sais-je, ou à pied pour venir ici, se dire, durant cette semaine, combien de moments je me suis arrêté et j'ai accordé du temps au Seigneur, dans le silence, dans sa voiture, dans sa maison, que sais-je. C'est très important de se poser cette question. Et je pense que, j'espère que ce n'est pas le cas de plusieurs, peut-être quelques-uns, peut-être, si notre conscience nous dit, t'as accordé aucune place durant la semaine, et bien, dès dimanche, je rectifie le tir et je prends du temps avec et pour le Seigneur. Alors, ce deuxième message, on reste toujours dans les généralités avant de rentrer dans le concret, bien que, vous allez voir, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui concerne le premier verset de l'évangile de Marc. Aujourd'hui, on va répondre à la question, quel est le but de cet évangile? L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, et on a l'évangile selon Marc. Pourquoi quatre évangiles? Pourquoi celui-là? Il se répète ou quoi? À quoi ça sert? Eh bien, nous allons voir que l'évangile de Marc nous présente un peu le Seigneur, on va dire différemment, mais simplement en accent sur la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons découvrir ensemble comment nous voyons le Seigneur, chacun de nous. Quel est le but de cet évangile? Pourquoi? Tout d'abord, je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste vous donner l'information globale. Cet évangile est écrit probablement entre les années 40 et 65 après Jésus-Christ. Je vous donne la fourchette large, comme ça j'intègre toutes les théories, toutes les thèses dedans. Voyez, au moins, ça, on sait, c'est là. Bon, maintenant, chacun vous dira plus vers 65, vers 40, 50. Bon, en tout cas, on sait que c'est la période où il a été écrit. Il a été écrit probablement, j'ai mis point d'interrogation, hein, donc, à Rome. Pourquoi je dis à Rome? Parce qu'il courait toujours derrière Pierre. Vous voyez, donc on va dire « suis Pierre ». Et comme c'est un évangile généraliste avec des mots simples, il ne s'adresse pas spécialement aux Juifs, ben, je dis peut-être à Rome. Vous avez remarqué que j'ai changé ma méthode. Maintenant, j'utilise le visuel pour vous expliquer. J'espère que ça vous... Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Après, l'évangile, il est écrit pour qui? Et c'est là que je voulais vous présenter l'évangile selon Marc. Quand on le lit, on se rend compte que cet évangile, il n'est pas écrit pour les Juifs. Il n'est pas écrit pour les érudits. Il est écrit pour les gens, pour tout le monde. Simplement, pour tout le monde. Pourquoi je dis cela? Donc, c'est l'évangile où on trouve le plus de mots d'origine latine. Première chose. Deuxième chose, c'est le mot, c'est l'évangile où on assiste, si vous le lisez, on a l'impression qu'on est en train d'expliquer les traditions juives. Alors si s'adressait aux juifs, on ne leur explique pas les traditions juives. Vous voyez, par déduction, cet évangile ne peut pas s'adresser directement aux juifs. Il explique les mots et les coutumes juives que des lecteurs romains et païens ne pourraient pas comprendre. Alors je vais vous donner quelques exemples. Alors, si je prends par exemple Marc 7, versets 3 et 4, regardez, il est en train d'expliquer, en fait, les habitudes. Les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains. Il n'explique pas aux juifs, ça. Il est en train d'expliquer. Aux gens, voilà comment ça se passe. Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases, des reins. En fait, il est en train de parler à nous, qui ne connaissaient pas les habitudes juives. Très intéressant. Un autre exemple, même les lieux géographiques. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et il précise en face du temple. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il est en train de leur dire, la montagne des Oliviers, c'est en face du temple. Vous qui ne connaissez pas Jérusalem, les Juifs, etc. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'était la veille du Shabbat. Donc c'est bien clair que l'évangile n'est pas écrit pour les Juifs. La bonne nouvelle, l'évangile selon Marc, c'est une bonne nouvelle adressée à tout le monde. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Vous voyez, il explique toujours. Hein, le premier jour, des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, etc., etc. Donc on est bien d'accord que cet évangile, c'est pour ça que j'ai choisi, il s'adresse à tout le monde simplement, avec des mots simples. En plus de cela, si on prend l'évangile de Marc, c'est l'évangile où il y a le moins de prophéties de l'Ancien Testament. C'est l'évangile où il fait moins référence à l'Ancien Testament. Oui, raison de plus pour vous dire qu'il ne s'adresse pas spécialement aux Juifs. Oui. Dans cet évangile, il y a deux références, deux prophéties seulement. Hein? Deux prophéties seulement. Marc 1, 2, 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Première citation de l'Ancien Testament, et la deuxième, on la trouve. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il n'y a aucune autre référence dans l'Ancien Testament. Raison de plus pour vous dire qu'il s'adresse à tout le monde, il ne s'adresse pas aux Juifs, comme quel évangile qui s'adresse vraiment aux Juifs. Selon Matthieu. Si vous lisez l'évangile selon Matthieu, alors là, c'est vraiment, il s'adresse aux érudits, aux juifs. La bonne nouvelle, l'histoire de Seigneur Jésus-Christ, est, en fait, s'adresse aux juifs. Alors, quel est le but pour lequel l'évangile de Marc a été écrit? Marc nous présente d'abord, dans son évangile, comme étant le serviteur humble. Voilà Marc. Quand on lit l'évangile, Marc tout de suite, il est en train de nous présenter un Seigneur humble. Jésus est un serviteur humble. Jésus était en perpétuel mouvement au service des autres. Dans son évangile, Marc met l'accent sur les œuvres du Seigneur que sur ses paroles, avec un style rapide, énergique. Les mots qui se répètent le plus dans l'évangile de Marc, c'est immédiatement, aussitôt, un instant. Le Seigneur est toujours en mouvement. Il veut servir, tout le temps servir. Quand je parle du Seigneur, vous avez compris, c'est notre vie. Ce que fait le Seigneur, c'est notre chemin. Je ne suis pas en train de faire un constat sur le Seigneur. Je suis en train de dire, voilà le Seigneur, voilà ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait, c'est le chemin qu'il nous montre. C'est ce que nous devons être. Est-ce que nous sommes immédiatement, tout de suite, au service de mon frère et de ma sœur? Ou pas que, tous ceux qui sont dans le besoin. En ce qui concerne la condition de serviteur, Marc souligne la discrétion absolue et l'humilité du Seigneur. Jésus ne cherchait pas à se faire valoir, mais il s'éloignait constamment de la multitude. Comme serviteur, il s'est rabaissé lui-même, ne cherchant pas ses propres intérêts. Quand il montait à Jérusalem, il annonça à ses disciples qu'il allait être mis à mort. Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais le Seigneur lui a répondu, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Le Seigneur voulait servir, Pierre pensait bien faire, mais il lui dit, « Arrête de moi, Satan, laisse-moi faire, continue à servir. » Son intérêt était placé sur la volonté de Dieu, et non sur lui-même, ou sur sa propre sécurité, ou son bien-être. Plus loin, quand les disciples discutaient entre eux pour savoir qui d'entre eux allait occuper les plus hautes positions dans le royaume des cieux, le Seigneur leur enseigna le chemin du service. Quand on lui demandait qui va être le premier que sais-je, il leur dit, servez-vous d'abord, il faut être serviteur. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Peut-être c'est notre cas. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être les premiers, il sera le dernier de tous les serviteurs de tous. » Voyez ? Le service, et ne pas chercher à être le meilleur, même spirituellement, que sais-je. Un autre passage, toujours dans l'évangile de Marc. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Plus loin, il leur répond, « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ça, on est dans l'évangile de Marc. Son intérêt était placé sur la volonté de Dieu et non sur lui-même ou sur sa propre sécurité. Dans ce sens, nous pouvons dire dans l'évangile de Marc, je peux dire que le verset clé de tout l'évangile de Marc serait celui-là. Car le Fils de l'homme est venu pour être non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et c'est là où on doit se poser la question comme chrétien. Quand on est chrétien, on doit avoir plus de joie à donner de son temps, que sais-je, que de chercher à être servi. Et le Seigneur le premier à donner l'exemple. En étant le Fils de Dieu, il est venu pour servir et non pas pour être servi. Alors, Marc, dans son évangile, nous donne tout de suite le titre, le pourquoi de son évangile. Dès le premier verset, il nous dit « Commencement de l'évangile de Jésus, Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Le premier verset est le titre, le résumé de tout l'évangile. Il nous dit « Voilà ce que je vais vous dire, verset 1. » Et par la suite, il dit « Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. » C'est comme ça, en tout cas personnellement, j'ai compris l'évangile selon Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le Christ, Jésus, est présenté à la fois comme le Christ et comme le Fils de Dieu. C'est ça tout l'évangile. Jésus est à la fois homme parfait, totalement homme parfait, et aussi Fils de Dieu et Christ. L'évangile de Marc décrit la nature divine de Jésus, le Fils de l'homme et aussi le Fils de Dieu. Commençons de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette déclaration résonne plusieurs fois tout au long de tout l'évangile selon Marc. Durant son baptême, c'était le Père lui-même qui s'adressa à lui avec ces mots. « Tu es mon Fils, bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Et de nouveau sur la montagne de la Transfiguration, « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé. » Écoutez-le. Et j'aime bien le mot « écoutez-le ». On l'oublie. Et est-ce que nous l'écoutons ? Écoutez-le. Quand il dit « Vous devez servir avant d'être servi », écoutez-le, écoutons-le. Il est aussi présenté comme le Fils bien-aimé dans la parole, dans la parabole des vignerons. Je reviens pas là-dessus, puisqu'il était partagé tout à l'heure. Et jusqu'aux esprits impurs qu'il chassait, il le proclamait comme le Saint envoyé par Dieu. Les esprits impurs que le Seigneur chassait et qu'il le proclamait comme le Saint envoyé par Dieu. Et c'est là que je trouve le mensonge que le monde vit. Pour moi, c'est le plus grand mensonge que le monde vit depuis des siècles. C'est que le diable sait que le Christ est le Fils de Dieu. Mais il a convaincu le monde de croire que Dieu n'existe pas. Ça, pour moi, c'est un mensonge subtil. Vous vous rendez compte? Le diable croit en Dieu. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais il a réussi à convaincre le monde que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est la subtilité du mensonge de l'ennemi de nos âmes. Tout au long de son évangile, Marc décrit le Seigneur Jésus comme ayant l'autorité extrême sur tout genre de maladie, sur les mauvais esprits et sur la mort. Il a le pouvoir sur le royaume de la nature. Il connaît d'une manière précise l'avenir et connaît qu'il y a dans le cœur de, il connaît tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Son autorité est telle qu'il prononce le pardon comme Dieu seul peut le faire. Et il se présente à la fois comme le Seigneur du jour de repos. Les anges le servent et il peut baptiser du Saint-Esprit. Il est celui que David appelle Seigneur, celui qui viendra de nouveau dans la gloire de son Père. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il sans fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il y en a qui acceptaient cette bonne nouvelle, qui acceptaient ça. Divinité. Jésus aussi est présenté comme le véritable Messie. Pierre a reconnu devant le Seigneur, quand tu lui as posé la question, et il lui a dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Ce mot hébreu, qui se traduit en grec par Christ, signifie loin, celui qui a reçu l'onction pour être l'envoyé de Dieu. Mais quel Messie est le Seigneur? Rappelons-nous que les Juifs, même de nos jours, attendaient un Messie de la lignée de David, certes, mais pour les libérer des Romains. C'est un Messie en quelque sorte militaire et guerrier, un Messie politique et chef économique, un Messie géopolitique qui leur permet d'instaurer un royaume terrestre dans lequel Dieu règne dans son peuple élu. Jésus n'était pas ce genre de Messie. Il ne voulait pas que les gens se trompent sur sa messianité. C'est pourquoi il garde le silence sur ce sujet durant son ministère. L'une des caractéristiques de l'évangile de Marc est la fréquence avec laquelle Jésus ordonnait à certains personnages, que ce soit des esprits impurs, des démons, des personnes guéries par les miracles et ses propres disciples, de garder le silence et de ne révéler son identité à personne. 9 fois dans cet évangile, 9 fois au cours de l'évangile de Marc, Jésus impose le silence à ceux qui proclament son identité ou ses merveilles devant ses miracles. Exemple, Marc 1, verset 24. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ?» Là, il est en train de, quand il a chassé les démons. Les démons qui s'adressent au Seigneur. « Tu es venu pour nous perdre ? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Oui, le mensonge maintenant. Jésus le menaça, disant « Tais-toi ! Tais-toi !» Et il sort de cet homme. Il lui demande de se taire. « Ne dites pas que je suis le Saint de Dieu. » C'est quelque chose qui doit rester secret. Viendra le moment où je le proclamerai, mais pour le moment, tu ne le dis pas. Les démons le savent. Ils font croire au monde que ça n'existe pas et le monde suit ce mensonge. Et même à ses disciples. Et un autre passage, hein. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Il leur interdit de reconnaître, de dire qui il est. Pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est toujours le moment de Dieu qu'on sera dit. Et même à ses disciples, il leur a fait cette recommandation. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe et leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Par révélation, il a reçu ça. « Tu es le Christ. » Alors, Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Ce n'était pas le moment. C'est un fait indiscutable que l'évangile de Marc, de manière beaucoup plus accentuée que les autres évangiles, souligne le secret avec lequel Jésus voulait cacher son identité durant sa vie sur terre. Dans ce contexte, si Jésus déclarait ouvertement qui il était, et c'est-à-dire qu'il était le Messie, annoncé par les Écritures, il aurait provoqué une interprétation erronée de sa mission. Et même ceux qui le suivaient auraient créé un mouvement politique qui aurait fini dans une lutte sanglante avec les Romains. Peut-être il aurait créé une religion telle que les religions que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus, il y en a qui voyaient en Jésus, même parmi ceux qui croient en lui, ils voyaient en lui ce Messie qui venait délivrer le peuple d'Israël, des Romains. Et si on lit avec finesse la parole de Dieu, on le trouve. Regardez, si je lis Luc 24, versets 13 à 21, là-dedans, on voit déjà que même ceux qui croient en lui pensaient qu'il était ce militaire, ce politique qui venait les délivrer. Quand il était on est sur le chemin vers Emmaüs, après sa résurrection. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes, tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Plus loin, passage, verset 20, « Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ?» Voilà pour moi la phrase clé. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Parmi ceux, déjà, ils pensaient que c'était quelqu'un qui va délivrer Israël des Romains. Ils n'ont pas reçu encore l'Esprit Saint pour savoir que c'était le Messie. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'était valable pour ceux qui le suivaient. Et nous trouvons ça dans les évangiles. Si Jésus impose ainsi le silence, c'est que sa messianité ne pourra être vraiment accueillie dans la foi. Pourquoi ? Il ne pourrait accueillir cette messianité qu'après sa mort et sa résurrection. Voilà l'importance de la croix dans notre vie. Sans la croix, la mort et la résurrection, nous ne pouvons même pas comprendre ce que c'est que la messianité du Seigneur Jésus. Le proclamer avant sa passion, c'est se tromper sur sa personne. Car son royaume n'est pas de ce monde. Jésus n'était pas ce genre de messie terrestre, même s'il détient une puissance céleste. Marc nous le présente plusieurs fois comme le serviteur de l'Éternel qui donne sa vie pour son peuple. Donc la seule manière de comprendre correctement son identité messianique, et l'évangile de Marc nous l'explique, c'est seulement à la lumière de la croix et de la résurrection. Voilà ce qu'il a dit du Seigneur à ses disciples. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda, après la transfiguration, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, parce qu'ils ont vu la gloire du Seigneur, tout ça. Et là, j'ai souligné encore une fois la phrase clé, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Voilà l'enseignement pour nous. Si nous mettons la croix de côté, on crée une religion, on crée une partie politique religieuse. On croit vivre la foi chrétienne, mais on est à côté de la plaque. C'est à la lumière de la croix. Et comment je peux savoir à la lumière de la croix? La réponse, toute la matinée, on le sait. C'est dans le silence que je suis, dans le silence avec mon Seigneur. Avec lui, tout seul, disposé à ce qu'il me parle. Il me fait voyager dans son monde, dans son royaume, où je découvre le sens même de sa croix et de sa résurrection. Ce n'est pas un film d'horreur, que sais-je. Non, c'est une réalité spirituelle. Ici, nous arrivons au principal point de l'évangile. Voilà le cœur de l'évangile. Sans la croix et la résurrection, il est impossible de comprendre la mission de Jésus. Et je ne peux le savoir que dans le silence de ma communion avec lui. Je le répète, dans le silence de ma communion avec mon Seigneur. Mais en même temps, son œuvre à la croix n'aura pas de valeur pour nous si nous n'avons pas auparavant compris sa double nature. Jésus est l'homme parfait qui se présente comme le grand serviteur de Dieu en faveur de l'humanité, mais aussi le Fils divin de Dieu. Il est notre Dieu. Si je termine, et je termine par un avertissement, je tiens à partager avec vous, qui s'adresse à moi le premier, que le Seigneur nous a laissé à propos de son royaume, parce qu'on a parlé assez du royaume de Dieu, parce qu'il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Car, comme les Juifs, nous pouvons créer notre propre royaume. Nous sommes prêts à critiquer les Juifs qui cherchaient un Messie terrestre. Mais est-ce que nous ne créons pas notre propre Messie dans nos pratiques de tous les jours? Quand je ne consacre pas du temps à mon Seigneur dans le silence avec lui, je ne crée pas un Messie à moi qui est différent de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui me diffère des Juifs? Nous pouvons créer notre propre royaume aussi, tout en se professant chrétien. Il nous appelle à l'humilité et à la modestie, et surtout à ne pas nous créer nos propres dieux, afin d'accueillir le grand royaume que le Seigneur nous offre. Deux passages je partage avec vous. Voilà ce que le Seigneur dans cet évangile a dit. Amen, je vous le dis. Celui qui m'accueille et qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. La modestie et la simplicité, c'est les armes, je dirais, de tout chrétien. Et le deuxième. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses. » Et quand je dis des richesses, tout de suite on pense à l'argent. Non, non. Différentes richesses. Si je fais des priorités, que je mets le Seigneur de côté, c'est une richesse. Ce n'est pas spécialement l'argent. Hein? Le temps que je ne consacre pas à Dieu, c'est une richesse que je considère, je garde pour moi. À ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau. » Chameau, c'est la corde des pêcheurs, hein? Ce n'est pas l'animal. Hein? Voilà. Il est plus facile à un chameau, une corde, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand on dit riche, riche de quoi? Ne pensons pas seulement à l'argent. Il peut y avoir d'autres richesses que nous mettons devant le Seigneur pour le mettre au second plan. Là, il est question du royaume de Dieu, nous pouvons passer à côté. Comme vous le voyez, mes frères et sœurs, l'évangile de Marc que nous allons explorer ensemble, voyez, il est bien de voir cette vision globale comme introduction avant maintenant de prendre verset par verset. Mais nous sommes guidés par cette vision globale et maintenant nous pouvons mieux suivre le contenu de l'évangile. L'évangile de Marc est riche et même très riche si nous le laissons nous parler intérieurement dans l'humilité et la modestie. Ainsi, nous allons voyager ensemble avec Marc à travers son évangile et nous laisser guider pour approfondir pleinement notre connaissance de la personne de Jésus dans son véritable royaume. C'est cette invitation que je vous lance dès le prochain message. Que Dieu nous aide. Amen.